Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Comment reconnaître une mine antipersonnelle? On en parle avec Madame Sadio Kanté, chargée de programme à l'unité de coordination des luttes anti-mines des Nations Unies. Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur.
Alors, les mines antipersonnelles et autres engins non explosés constituent un véritable danger pour les populations habitant les zones secouées par la guerre. Des personnes sont mortes, d'autres se sont tirées avec des jambes déchiquetées après avoir marché sur les mines. Alors, comment reconnaître ces engins de la mort et comment se protéger, Madame Sadio?
Alors, tout d'abord, pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir réagir face à ces engins, il faut d'abord avoir suivi des formations de sensibilisation qui sont dispensées par les ONG nationales au Congo. Il y a 9 ONG nationales et les ONG internationales de la lutte anti-mine. Alors, des séances environ, jusqu'à présent, environ 2 millions de personnes ont reçu ces séances de sensibilisation. Mmh. On vous montre la forme des objets, parce que ces bombes, ces mines ont tout très souvent la forme d'objets usuels, de la vie courante. Donc on vous montre comment reconnaître ça et qu'est-ce qu'il faut faire. En général, il ne faut pas toucher, il ne faut pas approcher. Et si jamais vous vous retrouvez par mégarde sur une mine, il ne faut surtout pas bouger et essayer d'appeler à l'aide. Mmh. Parce que c'est au contact que la mine se déclenche. Donc, une fois que vous avez posé le pied dessus, il ne faut pas bouger. Ce sont des instructions, des enseignements qui sont diffusés à travers toutes ces séances de sensibilisation dispensées par les différentes ONG.
Et ces sensibilisations sont faites à l'intention des mineurs ou de toute la population?
À l'intention de la population.
Oui.
À l'intention de la population, surtout des zones affectées. Mmh. Pour leur permettre de vivre, malheureusement avec le danger, on essaye de limiter les risques de ces engins-là pour leur apprendre à réagir face à cela.
Oui. Alors, nous avons, d'après un rapport de l'unité de coordination de la lutte anti-mine des Nations Unies, au moins plus de 3200 mines antipersonnelles ont été détruites sur l'ensemble du territoire congolais. Ce bilan couvre la période allant de 2004 à 2010. Et on signale que le district du Tanganyika au Katanga est le plus pollué du pays. Alors, de ce côté-là, plusieurs sensibilisations ont été également menées. Population.
Alors, effectivement, selon les données, le district de Tanganyika apparaît comme l'un des districts l'une des zones les plus touchées par ce fléau.
Oui.
Mais en fait, en réalité, ce district-là a bénéficié d'une enquête approfondie, ce qui n'a pas été possible pour d'autres provinces et d'autres districts.
Mmh.
Donc, le district de Tanganyika, avant enquête, avait à peu près une cinquantaine de zones dangereuses répertoriées. Et après enquête, 500 zones dangereuses à répertorier. Donc, des financements avaient été trouvés par l'ONG DCA pour pouvoir mener ces enquêtes. C'est pour ça qu'on a ces chiffres-là. Donc, oui, effectivement, c'est contaminé, mais d'autres provinces peuvent être aussi autant ou sinon plus contaminées, mais il nous faut un financement pour pouvoir connaître l'ampleur du problème. Effectivement, étant donné au Tanganyika, il y a l'ONG DCA qui mène des actions de déminage et de sensibilisation en collaboration avec d'autres ONG comme ECC Meru, MSB, comme une compagnie internationale aussi qui agit dans la lutte anti-mine.
Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ces mines peuvent avoir plusieurs formes de la vie courante. Lesquelles, par exemple, et ça peut avoir quelle couleur?
Alors, ça, en général, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été posé ça a une couleur, en fait, ça peut être vert ou bien une couleur de la terre, quelque chose qui se confond avec la nature.
Mmh.
Comme c'est une arme, pour pouvoir piéger l'ennemi. Ça peut avoir une forme de boîte de conserve, ça peut avoir une forme de, pour les grenades, ça peut avoir une forme d'ananas, de fruits. Il faut être très vigilant quand on voit ces engins-là, des objets, comme je vous ai dit, de la vie courante, ça peut avoir la forme d'un bol renversé. Donc, il faut être très prudent et ne pas toucher, vraiment être sûr de ce qu'on a vu, quoi.
Alors, est-ce qu'on peut dire que généralement ces engins sont enfouis sous la terre ou bien c'est posé directement sur le sol?
En général, il y a deux types d'engins. Les mines sont enfouies en général pour qu'on ne les voit pas, pour que l'ennemi ne le voit pas. Il y a aussi ce qu'on appelle les engins non explosés. Ce sont toutes ces bombes qui ont été tirées et qui n'ont pas explosé et qui sont tombées. Donc, ils sont sur la terre. Les mines aussi, même malgré qu'elles soient enfouies, peuvent être emmenées par la pluie ou l'érosion à être visibles.
Oui.
Donc, il faut faire très attention. Elles sont, même si elles sont enfouies, elles sont enfouies pas très profondément parce qu'il faut pouvoir poser le pied ou passer la voiture dessus pour pouvoir pour que ça explose. Donc, c'est quand même à fleur de sol, hein.
Oui. Voilà, dans cette émission, Madame Sadio Kanté, les auditeurs vous suivent de partout, ils appellent pour poser des questions. Nous avons là, par exemple, Ignace Ndala qui nous appelle depuis le Kolwezi au Katanga, qui voudrait poser une question. Ignace, bonjour.
Bonjour, je dis, ma préoccupation est celle-ci.
Oui.
Je voudrais savoir d'abord quelle est la durée d'une mine antipersonnelle enfouie dans le sol. Et puis je me dis, je suis en train de marcher, je me rends compte que j'ai piétiné une mine. Quelle précaution prendre? Et une dernière préoccupation, quelle différence entre une mine et une grenade?
Merci. Ouais, merci, Madame Massadio.
Oui, alors... La première question, c'était... Pardon, vous pouvez la répéter, s'il vous plaît?
Oui, il demandait quelle est la durée d'une mine qui est enfouie.
Oui, la durée. Il n'y a, oui, a pas de durée. Hein. C'est illimité. Ça dure... ça peut, nous, il y a des mines qu'on... Nous, on va partir, on les laissera ici. 50 ans, 100 ans, plus. Jusqu'à présent, on trouve encore des mines de la Seconde Guerre mondiale en France.
Oui.
Donc, c'est pour vous dire, en France et en Europe, donc c'est pour vous dire, la durée est illimitée.
Et malgré toutes ces années, ces mines restent toujours dangereuses.
Exactement, ça reste dans le sol. Ça peut être, comme je vous ai dit, par l'effet de l'érosion et de la pluie, etc., peut être déplacé. Donc c'est pour ça qu'il faut encore plus redoubler de vigilance sur ces engins-là.
Oui. Le deuxième volet de sa question, il a piétiné, il a marché sur une mine, qu'est-ce qu'il doit faire?
Alors, il a marché sur une mine, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce que je vous ai dit au début, c'est que quand on sent qu'on a marché sur quelque chose, il faut surtout pas bouger. Il faut pas bouger, essayez d'appeler à l'aide pour pouvoir vous déplacer. Et si ce sont pas des professionnels, c'est difficile à dire, mais il faut surtout pas bouger. Si ce sont pas des professionnels qui viennent à votre secours, qu'ils aillent chercher des professionnels pour pouvoir désamorcer cette mine.
Ouais,
parce que le fait de bouger,
oui,
déclenche la mine.
Mais vous allez appeler à l'aide comment et comment on va vous faire partir de là? C'est trop compliqué.
Oui, donc si vous appelez à l'aide, par exemple des villageois, enfin si c'est dans un village ou bien dans une zone reculée, bon là ça nous pose un problème.
Oui.
Mais l'idée c'est de pouvoir accéder à quelqu'un qui va venir désamorcer la mine, donc peut-être mettre il y a des outils professionnels pour pouvoir empêcher la mine de se déclencher et pour pouvoir vous déplacer. Parce que vous déplacez, même si c'est 3-4 heures ou 5 heures que vous restez sur place, il faut rester, sinon c'est votre vie qui en dépend. Donc il faut trouver le moyen d'appeler au secours et d'aller chercher des professionnels pour pouvoir vous déplacer.
Oui, mais parfois c'est trop compliqué.
Oui, je sais que c'est compliqué, mais oui, c'est ça tout le problème de la lutte anti-mine. Hein.
Oui.
C'est pour ça qu'il y a des séances de sensibilisation pour prévenir qu'il faut, il faut faire attention. En général, des sentiers, quand un sentier n'est pas balisé, il vaut mieux ne pas y aller. Quoi. Voilà.
Voilà. Et notre volet de sa question, la différence entre mine et grenade.
Alors une mine, comme je vous ai dit, ça explose. La différence entre une mine et une grenade, la mine explose au contact. Hein. Le poids, les mines antipersonnelles, le poids d'une personne, et le mine anti-tank, le poids d'un véhicule. D'accord?
Oui.
Alors qu'une grenade, c'est une bombe qu'on déclenche avant de lancer.
Mm-hmm.
Vous comprenez? Ça ne se déclenche pas au poids, c'est pas parce que vous avez mis votre pied dessus que ça va exploser.
Mm-hmm.
C'est une manipulation qui fait que et que l'on lance et quand ça touche le sol, ça explose. Voilà la différence.
Voilà, nous avons un autre auditeur en ligne, Baudouin Moutanda, qui nous appelle depuis Colosi. Nous allons le retrouver juste après ceci.
Ok.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Baudouin Moutanda, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Nkachama.
On vous écoute, Baudouin.
Oui, je voudrais poser une question à notre invité. Elle vient de dire tout à l'heure que lorsqu'on piétine une mine, il ne faut pas bouger. Mais quels sont les signes qui peuvent signaler qu'on a piétiné une mine? Et puis cette mine a à quelle grandeur? Et puis quelqu'un qui est peut-être dans un village interéquiné, comment est-ce qu'il peut appeler au secours? Il va rester dessus la mine pendant combien de temps?
Voilà, Madame Sadio.
Oui, bonjour monsieur. Alors, d'abord, c'est pas piétiner, hein, c'est plutôt poser le pied sur une mine, parce qu'une fois que vous avez piétiné, c'est qu'elle est déclenchée.
Oui.
Donc, c'est plutôt quand vous sentez que vous avez, comment vous sentez que vous avez marché sur une mine. En général, vous entendez un déclic. Vous entendez un clic quand vous posez le pied sur quelque chose, et puis vous sentez un peu que le pied est descendu, quoi. Il y a eu une pression.
Oui.
Voilà. Donc c'est la façon dont vous pouvez vous avoir l'intuition d'avoir marché sur quelque chose qui n'est pas usuel. Donc il faut que vous regardiez sans bouger le pied. Alors oui, si vous êtes dans une zone reculée, c'est le problème. C'est ce qu'on dit dans nos séances de sensibilisation en général. Pour aller cultiver, etc., dans ces zones de conflit affectées par le conflit, il ne faut pas aller dans des endroits qui ne sont pas fréquentés, en forêt, etc., et toujours aller à deux personnes, etc., pour éviter, en cas de problème, pour pouvoir qu'un autre puisse appeler au secours. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas d'autres conseils qu'on peut donner pour quelqu'un. On peut donner des conseils pour quelqu'un qui n'a pas encore marché sur une mine ou bien qui n'a pas qui voit un objet et qui ne sait pas ce que c'est et comment il doit réagir face à cet objet. Mais quelqu'un qui est sûr, qui a marché, qui a posé le pied sur une mine, la seule solution, c'est de ne pas bouger et d'attendre le secours.
Et pour reconnaître qu'on a marché sur une mine, il y a un déclic. Hein.
Vous entendez un petit clic.
Un petit clic,
oui. Voilà. Ouais. Et puis vous sentez qu'il y a eu une pression. Quand vos pieds se posent sur quelque chose qui demande une pression, vous le sentez.
Oui.
Hein? Voilà. Donc là, on sait qu'il y a. Donc le conseil qu'on peut donner, surtout au Congo, dans des zones où il y a pas, les villages sont un peu éparpillés et puis c'est grand, les distances sont grandes, il faut se déplacer toujours à plusieurs.
Alors
pour pouvoir apporter assistance à l'autre.
Alors prenons le cas d'un agriculteur qui est en train de travailler la terre avec sa houe et puis voilà, il peut taper sur une mine et il y a aussi risque d'explosion.
Oui, il y a risque d'explosion effectivement. C'est pour ça que nos ONG essayent de localiser en fait quand ils ont un rapport des villageois, des zones qui ont été où ils ont repéré des engins suspects. On vient faire, ils identifient la zone et on marque. Donc ça veut dire qu'il faut pas aller dans ces zones-là. Donc il y a ces cas de figure où il y a déjà une zone marquée, ça veut dire que c'est interdit d'y aller. Il faut pas y aller. Il y a tout un périmètre autour où il faut pas y aller. Donc maintenant, pour ceux qui vont dans leur champ et qui cette zone n'est pas connue comme étant polluée avec des engins, effectivement, un agriculteur peut toucher une mine. Et c'est un risque de blessure ou de mort qui est là, qui est certain. Malheureusement, on n'a pas toutes les zones dangereuses, on ne sait pas où sont éparpillés ces engins de la mort.
Et combien de victimes vous avez déjà, les cas de victimes que vous avez déjà enregistrés, par exemple, pour cette année?
Alors, les cas de victimes, jusqu'à présent, on a environ 2500 victimes, si je ne m'abuse, qui ont été répertoriées en RDC.
Et dans quelle partie du pays, au Katanga, particulièrement?
Toutes les provinces, pratiquement, sauf pratiquement toutes les provinces. On a il y en a même au Bas-Congo, en Équateur, toutes les 11 provinces. Avec plus ou moins de différences entre le nord-sud Kivu, tout l'est du pays qui a beaucoup plus, et l'Équateur. les plus touchés, l'Équateur, le Katanga, le Nord Kivu, Sud Kivu et la province orientale. On enregistre le plus grand nombre de victimes.
Oui.
Bien sûr, comme je vous ai dit encore une fois, la collecte de données pose un problème. Tout ça, c'est provisoire. Il va sans dire que plus les enquêtes seront approfondies, plus il y aura des victimes connues.
Oui. Blanchard nous appelle depuis Mbandaka. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Je dis Daniel Kacha.
On vous écoute, Blanchard.
Ah oui, je voudrais poser la question à l'invité parce qu'à l'Équateur aussi, nous avons connu la guerre. Alors on suppose qu'il y a aussi des mines antipersonnelles dans la forêt où les femmes se rendent pour travailler. Maintenant, comment ces femmes qui sont dans des milliers ruraux peuvent savoir qu'il y a des mines antipersonnelles, c'est ça?
Oui.
Voilà, alors, Madame Sadio.
Oui, merci pour votre question. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, tout ça, ça passe par des séances de sensibilisation. Bien sûr, il y a la catégorie de personnes qui ont reçu ces séances de sensibilisation et celles qui ne l'ont pas reçues. Donc, ce qu'on peut dire, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est que toujours se déplacer à plusieurs, déjà, dans des zones, essayer de ne pas aller dans des zones qui ne sont pas, utilisées ou où les sentiers ne sont pas balisés. C'est le conseil qu'on peut donner pour ceux qui n'ont pas eu les séances de sensibilisation. Maintenant, une fois qu'un engin suspect est repéré, il faut contacter, par exemple, le chef du village qui pourra contacter les autorités et prendre contact avec les ONG qui travaillent sur place. Il y a Humanitas Ubangi qui travaille en Équateur, il y a Tosalisana aussi qui travaille, il y a Ildi qui travaille. Ce sont des ONG nationales locales qui ont des activités de sensibilisation au risque des mines. Et eux, ils descendront vérifier la zone et puis marquer et nous faire le rapport pour qu'on envoie des équipes. Il y a une ONG internationale de déminage qui s'appelle MAG, Mine Advisory Group, qui est en Équateur et qui peut intervenir dans ces cas-là.
Voilà, nous allons recueillir la question de Peter Chaban depuis Kalemie au Katanga. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Jody Kachama, bonjour.
Bonjour. Bonjour, Peter, on vous écoute.
Oui, Jody Kachama, je voudrais poser la question à notre invité. Lorsqu'on est seul en brousse, comment est-ce qu'on peut se débarrasser d'une mine si on se rend compte que l'on a marché sur elle?
Voilà, c'est Madame Sadir.
Oui, donc je reviens là-dessus. On ne peut pas se débarrasser d'une mine. Justement, si vous marchez sur une mine, surtout, il ne faut pas bouger. Vous restez, je l'ai dit précédemment, il faut rester sur place et essayer d'appeler au secours. C'est pour ça qu'on demande à ceux qu'on se déplace à plusieurs ou à deux pour que quelqu'un puisse aller chercher du secours. Parce que le fait d'enlever le pied, ça déclenche la charge et vous pouvez perdre votre vie.
Voilà. Et, donc,
et puis en avançant, même si celle-là peut-être se déclenche pas, vous pouvez en voir d'autres autour. Et la personne qui est avec vous ne doit pas s'approcher aussi. Ça, c'est quelque chose de très important à dire parce qu'on ne sait pas, il peut y en avoir d'autres aux alentours.
Voilà, il peut y en avoir d'autres
vous
aux alentours.
Vous pouvez être dans un champ de mine qui n'a pas été marqué, en fait.
Mmh. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver.
Oui.
Alors, une personne qui marche sur une mine, quels sont les risques? Elle risque de mourir tout de suite ou tout simplement de se retrouver avec une jambe déchiquetée et puis qu'on va amputer plus tard?
Non, il y a les deux. Il y a des victimes qui meurent sur place.
Oui.
Il y a différents types de mines. Il y a des mines qui sont aussi, il y a des mines qui ont qui s'éparpillent en fait. Leur explosion éparpille leurs charges un peu partout, ce qui fait que tout le corps peut être atteint. Et puis là, il y a beaucoup de mutilés, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens aussi qui meurent des mines. Et surtout des mines antipersonnelles. Tout dépend de la charge, tout dépend de la position de la personne. C'est vraiment un engin de la mort.
C'est vraiment un engin de la mort. Voilà. Et vos unités, vous travaillez en collaboration avec des ONG pour le déminage à l'Équateur, au Katanga et ailleurs. Oui. Et comment ça évolue pour cette année 2010 hein?
Alors, pour cette année 2010, on a, disons que il y a... Disons, depuis le début des opérations jusqu'à aujourd'hui, on a couvert, on a déminé, dépollué, disons, plus de 6 500 000 mètres carrés dans le pays. Il y a plus de 14 000 kilomètres de routes qui ont été vérifiées et nettoyées, donc libérées, surtout au Katanga.
Oui.
Et donc plus de environ 3 000 mines ont été disons désamorcées et détruites. Mmh. Et on a ce qu'on appelle les engins non explosés, ceux qui sont au nombre de plus de 110 907. C'est le gros problème aussi aujourd'hui au Congo. C'est pas, il y a pas que les mines antipersonnelles, il y a ces bombes qu'on retrouve un peu partout, qui ont été tirées, qui n'ont pas explosé. Et qui tuent, qui disséminent carrément, qui peuvent disséminer une famille. Mmh. Les gens ne font pas attention à ça. Mais on a eu des rapports récemment, des familles qui ont été carrément pratiquement disséminées par ça, parce que l'enfant a trouvé une bombe qui a commencé à jouer à la maison et ça a explosé, ça a tué tout le monde. Donc ça aussi, c'est un fléau qui n'est pas forcément pris en compte. On parle des mines antipersonnelles, mais il y a ces engins-là aussi qui sont là et qui tuent énormément. Les gens ont l'habitude d'aller chercher ces engins, récupérer le fer au mépris de leur vie.
Et récupérer le fer pour en faire quoi?
Récupérer pour faire de la récupération. Ils trouvent ces engins-là, ils revendent le fer, ils essaient d'enlever la poudre dedans et ils déclenchent le mécanisme qui fait que... Et ça tue.
Merci beaucoup, Madame Sadio Kanté. Nous rappelons que vous êtes chargée des programmes au Centre de coordination de la lutte anti-mine des Nations Unies. Nous vous disons merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Bonne journée et à la prochaine.
Je vous remercie pour l'intérêt de notre cause.
À la prochaine.
Merci beaucoup. Au revoir.